Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message pour aujourd'hui, c'est le message numéro 10 de la série sur les dons de l'esprit. Et le thème, c'est le don de parler en langue. Le don de parler en langue est listé dans 1 Corinthiens 12 comme une des manifestations de l'esprit. Donc c'est, comme nous avons dit souvent sur les dons spirituels, c'est quelque chose qui est surnaturel. Il ne s'agit pas du tout d'apprendre une langue étrangère ou de quoi que ce soit, ou d'être doué en linguistique. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de surnaturel qui se produit pour quelqu'un qui est né de nouveau et qui expérimente par le Saint-Esprit une capacité de parler des langues qu'il n'a jamais apprises. Donc pour le message aujourd'hui, je vais aussi me baser, parce que c'est pas la peine de tout refaire ce que d'autres ont fait. Le schéma directeur, ce sera en partie, pour ceux qui connaissent le petit livre « Pourquoi parler en langue ?». Il y a une dizaine de points qui nous sont donnés là pour nous encourager à vraiment être enthousiastes de cette capacité que le Seigneur nous a donnée. Mais tout de suite, on pourrait dire, mais attends, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Parce qu'ici, nous sommes dans un contexte de dons spirituels, les 9 dons de l'Esprit de 1 Corinthiens 12, où nous disons que ce sont des dons qui sont donnés pour l'édification commune, selon la volonté de l'Esprit. Or, nous n'allons pas tout refaire aujourd'hui, mais les langues, nous parlons souvent du baptême dans le Saint-Esprit avec un signe initial qui est de parler en d'autres langues. C'est quand l'Esprit de Dieu nous envahit au point qu'on s'abandonne totalement à lui et on voit que dans notre esprit se passe quelque chose, c'est que notre intellect ne contrôle plus tout, mais que nous nous livrons à lui et quelque chose de surnaturel se passe. Il y a maintenant en nous cette source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle, qui se transforme en fleuve d'eau vive, et il y a quelque chose qui enrichit notre vie spirituelle. Et nous savons, nous, que autant nous pouvons décider de lire la Bible ou de la laisser fermer, autant nous pouvons décider de méditer ou de ne pas méditer, nous pouvons décider de prier ou de ne pas prier, nous pouvons aussi décider de prier dans l'esprit ou ne pas prier dans l'esprit. Donc, ça n'a apparemment rien à voir avec le fait qu'un don spirituel soit distribué selon la volonté de l'Esprit de Dieu. D'accord? Mais nous allons voir pourquoi ces choses sont en rapport. Parce que sinon, quelqu'un pourrait dire, attention, tu n'es pas dans le sujet, ce n'est pas la même chose. On pourrait dire, ce n'est pas la même chose, mais ça a sa même origine, la même source. Et c'est ça qui est important de comprendre pour chacun d'entre nous. Je pense aussi que il y a eu énormément d'attaques, bien sûr, contre le parler en langue, contre le fait que des gens puissent expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, parce que selon la promesse du Seigneur Jésus, où il a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, normalement vous le connaissez par cœur ce verset, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et juste avant, il avait expliqué au verset 5, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Acte 2:4, il nous est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Encore une fois, c'est bien quelque chose qui est surnaturel et qui vient de l'Esprit de Dieu. Les mots sont surnaturels. Dans Actes 10:45-46, il nous est dit aussi que les gens qui étaient là, les Juifs qui avaient accompagné Pierre dans la maison de Corneille, ils étaient étonnés. Ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc il y a là une réalité spirituelle. Dans l'Église, L'exception ne devrait pas être quelques personnes qui parlent en langue. Tiens, c'est bizarre, ils parlent en langue. Mais l'exception, ce devrait être l'inverse, en disant, mais comment se fait-il que dans l'Église, au début, le Saint-Esprit saisissait les gens, il s'abandonnait à l'Esprit de Dieu, des choses surnaturelles se manifestaient, et il nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous. Et là, il est même dit sans exception. Mais quand on dit tous, ce n'était que les 120 qui étaient réunis. Ce n'était que ceux qui avaient persévéré. Parce que juste avant, on nous a dit qu'il y avait 500 personnes qui étaient témoins de la résurrection, entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte. Il y avait 500 personnes qu'il avait vu ressusciter. Mais il n'y avait que 120 qui avaient prié selon l'ordre de Jésus. Restez ici, persévérez, le Père va vous donner ce qui a été promis. Donc ceux-là l'ont reçu. Donc c'est encore une question de le désirer, avoir soif, le vouloir vraiment. Il y a des personnes qui ont entendu des rapports inquiétants sur le fait que peut-être si vous parlez en autre langue, vous êtes possédé par un démon ou des choses comme ça. Donc elles ont eu très peur. Et je me rappelle d'un évangéliste, et il a dit, sois pas inquiet, n'aie pas peur de parler en langue. C'est seulement pour celui qui croit. Dans le sens que ça va pas te tomber dessus si tu ne le désires pas. C'est seulement si tu le veux. Et si tu le veux, c'est que tu as compris que c'est une bénédiction que ton Père Céleste veut te donner. Ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus, qui se saisit de toi et que tu es maintenant possédé par un esprit. C'est justement la différence. C'est la grande différence entre le ciel et l'enfer, entre ce que Dieu fait et ce que le diable fait. On le voit, le drame dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'être humain essaye de dominer sur l'être humain. Même, on le voit dans les déchirements qu'il y a dans les familles, dans les couples, les gens qui essayent de se manipuler, de dominer. Dans le domaine de l'amour, on utilise le mot amour, alors qu'en fait, les gens pensent convoitise, possession, domination. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et donc, ce que le diable fait, c'est de vouloir posséder les gens. D'abord, il les obsède au niveau des pensées jusqu'à ce qu'ils s'abandonnent et qu'ils puissent les contrôler et ainsi se manifester dans le monde. Et ce que Dieu veut faire, on peut dire comme contre-attaque, si vous voulez, il veut maintenant un peuple qui se livre à lui volontairement, qui s'abandonne et qui devient collaborateur avec l'Esprit de Dieu pour contrer ce que le diable fait. Et ainsi donc on a cette expérience spirituelle du baptême dans le Saint-Esprit, avec cette manifestation de pouvoir parler des langues qu'on n'a jamais apprises. En quoi c'est intéressant? Mais c'est intéressant dans le sens que c'est quelque chose que Dieu a mis en place et qui fait que notre esprit, qui souvent vient en troisième position, même les gens qui ont compris que l'être humain est en trois parties, ils disent « corps, âme et esprit ». Parce que souvent les besoins du corps sont ceux qu'on veut satisfaire les premiers. Ensuite les besoins de l'âme, et puis s'il reste quelque chose, on s'occupe de l'esprit. Sachant que l'esprit pour nous, c'est pas le domaine intellectuel, c'est le domaine spirituel. Hein, parce qu'on est obligé de faire cette correction, puisqu'en français, quand on dit quelqu'un il a de l'esprit, ça veut dire que c'est un intellect brillant. Alors que la réalité, normalement, c'est d'avoir de l'esprit, c'est être spirituel. Donc, souvent, les choses sont à l'envers, mais quand on s'abandonne à Dieu, on permet à l'esprit, de nouveau, de reprendre sa place. Dieu est esprit, nous sommes créés à l'image de Dieu esprit, Dieu attend avec nous une communication en esprit et en vérité. C'est un niveau élevé de communion avec lui. C'est comme vouloir revenir en arrière. C'est-à-dire expérimenter Dieu au niveau de notre âme et de notre corps ne doit pas être la priorité, même si ça fait du bien. Mais ça, on doit d'abord avoir cette communion en esprit. Vous le réalisez, ça? Donc, les langues sont données comme un signe initial. Et donc, ces langues peuvent se manifester aussi en public, d'une certaine façon, comme un don spirituel à l'initiative de Dieu. Quand je dis à l'initiative de Dieu, c'est parce que la Bible nous dit que c'est distribué selon sa volonté. Mais en même temps, on peut se poser la question, pourquoi certains dons ne se manifestent pas? c'est parce que on n'y aspire pas assez. Nous avons 1 Corinthiens 14 qui nous dit qu'il nous faut d'abord, l'important c'est marcher dans l'amour, mais aussi aspirer aux dons spirituels. Est-ce que vous le désirez ça? Est-ce que vous aimeriez que Dieu se serve de vous pour proclamer un message dans une langue que vous n'avez jamais apprise? Immédiatement se bouscule dans notre tête peut-être un certain nombre de questions. Tu vas avoir l'air de quoi? Est-ce que, à quoi ça va ressembler, etc. Donc des complexes, des peurs, des freins que nous avons et toutes sortes de réflexions. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de vivre chacun certaines choses d'abord dans notre intimité, dans notre chambre et dans la présence de Dieu. Où on arrive à ce niveau, où au moment où Dieu nous envoie quelque part, on se pose plus plein de questions. On arrive au point de préférer de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que les apôtres, à un moment, ont dit. Dans les actes des apôtres, on leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Et, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, était leur réponse. Et tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu, tous les gens de la Bible, à un moment donné, ils arrivent à ce point où ils doivent prendre cette position. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'apôtre Paul lui-même, il disait que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Si je cherche tout le temps à faire plaisir, vous voyez, même pour un pasteur, vous avez des gens qui sont tellement différents dans l'église. Si vous voulez que l'église se déroule pour faire plaisir à l'un, ben ça ne fera pas plaisir à l'autre. Donc, ensemble, nous cherchons avant tout à plaire à Dieu. Et donc, ça se passe beaucoup mieux comme ça. Donc, les langues en tant que signe initial. Pour moi, ça ne fait plus aucun doute que c'est quelque chose qui a été donné pour nous montrer le point de départ de quelque chose. Mais pour certains, c'est le point d'arrivée. Ça y est, je l'ai eu. Non, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ de quelque chose. On peut dire maintenant j'arrive juste dans cette étape supplémentaire où je continue mon cheminement d'une façon nouvelle. Mais certains sont dit, ça y est, je suis arrivé, c'est bon. Depuis le temps que je cherchais le baptême du Saint-Esprit, ça y est, maintenant je l'ai eu. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et ce n'est pas, comme on a dit avec certains, ce n'est pas un diplôme de sainteté. Hein. Vous n'avez pas maintenant, ça y est, je fais partie d'une classe supérieure de chrétiens. Et avant, j'étais deuxième classe, maintenant je suis première classe. Ce n'est pas du tout comme ça. Nous avons vu déjà dans les dons spirituels que, par exemple, l'ânesse de Balaam a prophétisé. Est-ce que vous trouvez qu'elle était particulièrement sanctifiée à cause de ça ou elle a été... C'était un moyen que Dieu a utilisé, mais ça ne garantit en rien du tout la valeur de la personne. La valeur de la personne, c'est quelque chose de différent. On n'a pas besoin de se valoriser. Il y a des gens qui cherchent à se valoriser par rapport à un parcours d'études, de diplômes, de positions sociales. Mais comme on dit dans le proverbe, on dit « l'habit ne fait pas le moine ». On peut se donner plein de choses extérieures, mais ça ne change pas notre valeur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Les biens, ce n'est pas seulement ce que vous avez compte en manque, mais justement, tout ce que les gens d'habitude listent. Hein. Une bonne façon de voir la prospérité, un de mes amis a dit une fois, on voit la prospérité d'un homme à ses chaussures. Mais c'est vrai que selon votre budget, vous allez acheter des chaussures plus ou moins chères. Hein. Vous n'imagineriez pas peut-être dépenser plusieurs centaines d'euros pour des chaussures. Par contre, si vous êtes très riche et que pour vous, ce n'est pas un problème, si ça vous fait plaisir, vous pouvez aller dans un magasin de luxe et acheter des chaussures. Donc, ça c'est juste une histoire, une comparaison. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose. La taille de la maison, le type de voiture qu'on roule, les plein de choses comme ça. Mais les gens font comme ça une évaluation et ça y est, maintenant je suis arrivé à une certaine position. Et Jésus dit tout ça n'a aucune valeur. La vie d'un homme dépend de ce qu'il y a en lui, de ce qu'il est vraiment. Après, si Dieu nous donne des choses par-dessus, tant mieux pour celui qui les a. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir qui nous sommes en Christ. Alors nous sommes des personnes qui avons rencontré Jésus. Il nous a fait cette grâce de nous sauver, de nous faire partie de sa famille. Et maintenant, on désire plus de Saint-Esprit. Il nous a remplis et nous avons reçu cette capacité. Et mon message n'est pas de dire comment on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit maintenant, mais focaliser sur ce don extraordinaire de parler en langue. Alors, parler en langue, ça permet justement de parler, de notre esprit s'exprime et on va voir un certain nombre de choses pour nous rappeler de parler en langue. Les langues sont un signe initial et le deuxième point, c'est les langues sont pour notre édification spirituelle. 1 Corinthiens 14, 4. J'ai l'impression que pendant que je parle, un certain nombre de personnes qui sont là ou qui m'écoutent, vous êtes très familiers avec ces versets. J'ai presque l'impression de dire, je vais encore leur rappeler ça. Mais nous n'allons pas nous arrêter parce que je dis même pour moi, j'ai besoin constamment de me stimuler de nouveau, de ne pas me laisser aller dans la chair, mais de permettre à l'esprit de rester en première position. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On ne connaît pas un chrétien qui dit « maintenant je suis trop édifié ». Maintenant j'en peux plus, j'ai tellement édifié. Un jour, un homme m'a dit, je parlais de notre école biblique, et il a dit, moi je suis saturé de spirituel. Il venait de faire une formation plus théologique, biblique peut-être, et donc il voulait me dire qu'il en avait trop, il ne pouvait plus. Mais la Bible nous dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Se remplir de la tête de choses de Dieu n'est pas forcément édifiant. Et on peut comprendre que les gens, au bout d'un moment, nous on dit ici, ils en sont ras-le-bol, saturés, trop, etc. Mais avec Dieu, ça ne se passera jamais. On peut même être convaincu, jamais trop de Dieu dans ma vie. C'est pas possible. Trop de religion, trop de bourrage de crâne intellectuel, de théologie, dans le sens négatif. Ça, c'est possible, mais pas trop du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, quand on sait aussi que nous sommes des êtres vivants, on ne vit pas sur des réserves de hier. Bien sûr, on sait que l'être humain, il peut survivre un petit moment sans manger ou même un tout petit moment sans boire, c'est possible. Mais au bout d'un moment, notre corps a besoin d'être renouvelé. Et notre esprit aussi. On ne vit pas sur des réserves. La foi est. Elle est au présent. Je ne vis pas sur la foi d'hier. Elle est passée. Elle ne sert plus à rien du tout. Elle a produit ce qu'elle a produit. Mais maintenant, j'ai besoin d'être édifié sur aujourd'hui de nouveau. Tout fraîchement. Et Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles. Une nouvelle journée, ça veut dire des nouvelles possibilités. Ça veut dire que je dois de nouveau me mettre en position de vivre cette journée avec Dieu, de recevoir de lui. J'oublie ce qui est en arrière, je fais une seule chose, je cours vers l'avant, je vis dans la journée d'aujourd'hui que Dieu m'a donnée. Peut-être Jésus revient bientôt, mais je vis aujourd'hui. Je ne vis pas dans la projection maintenant d'une date précise ou de quoi que ce soit. Donc, je veux être édifié aujourd'hui. J'accepte et je crois selon la parole de Dieu que c'est une bonne chose pour moi de parler en langue, de prier en langue. Mais maintenant, il nous faut aussi être focalisé. Des fois, je crois qu'on part dans plusieurs directions, mais on doit être focalisé dans ce qu'on fait aussi. Vous pouvez, on a dit, une ânesse a prophétisé. Vous pouvez faire du bruit avec votre bouche, même faire un semblant de parler en langue, sans qu'il y ait vraiment cette énergie et cette puissance de Dieu qui se manifeste. Comment est-ce possible? Eh bien, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai, au conditionnel, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Un airain, ça voulait dire une sorte de trompette, cymbale, on comprend, c'est la forme du cercle qu'on frappe. Donc, c'est juste un bruit. On doit être plus que des gens qui faisons du bruit. Comme j'ai dit, des fois, il y avait du discrédit sur certaines manifestations spirituelles, parce qu'il y a des gens qui se prétendaient des gens très spirituels, supérieurs à d'autres, qui faisaient du bruit, et en même temps, leur vie à côté était une catastrophe. Ils ne manifestaient pas le fruit de l'esprit, ils avaient une attitude vraiment qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il y a une expression dans la Bible aussi concernant ceux qui sont appelés à servir Dieu. Il dit qu'ils aient un bon témoignage des gens du dehors. Nous aussi, on ne peut pas dire on est ceux qui se rassemblent le dimanche matin, on est là, et là il se passe des choses dans l'esprit. Et dès qu'on quitte cet endroit, on devient de nouveau un chrétien médiocre qui a un mauvais témoignage à l'égard de toutes les personnes qu'on rencontre. Donc, ici, la Bible nous dit, à ce moment-là, puisqu'on n'a pas l'amour, parce que l'amour, le fruit de l'esprit est résumé dans l'amour. Après, on voit différents aspects. La bonté, la douceur, la patience ne sont que des expressions de l'amour. Si on n'a pas ça, alors on est juste des gens qui faisons du bruit. Et du bruit, on en a assez dans notre monde. On n'a pas besoin de plus de bruit encore. Mais nous avons besoin de réaliser qu'il y a quelque chose qui est plus que ça. Plus que du bruit, c'est quelque chose qui édifie, qui construit notre être spirituel, qui le fortifie et qui va, avec cette expression moderne, qui va le booster, qui va permettre que cette puissance de Dieu va se manifester en nous et au travers de nous. Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il peut le faire. Mais donc, ne nous trompons pas nous-mêmes. La Bible pose la question, un homme trompe-t-il Dieu? Réponse? Non. Personne ne peut tromper Dieu. Et vous voulez, mais la phrase suivante, c'est, mais vous me trompez, mais c'est pas réellement, vous arrivez à me duper. C'est pas ça que Dieu dit, mais vous vous trompez vous-même, en fait. Vous êtes en train de vous priver. Si vous faites semblant d'être spirituel, vous croyez que ça va impressionner le Seigneur? Il va dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont spirituels, ils parlent en langue. Mais non, la Bible nous répond là, elle dit, non, ils font juste du bruit. Mais il n'y a pas l'amour, ça n'impressionne personne, surtout pas Dieu. La Bible nous dit aussi dans Jacques 1 que nous avons comme un miroir devant nos yeux. Je ne sais pas si vous avez, tous les matins, vous regardez le miroir, mais... Si un jour vous partez sans vous être regardé dans le miroir, peut-être l'allure que vous aurez, nous on pense souvent à la coiffure ou d'autres choses, mais on peut avoir une drôle d'allure hein, et ne pas être prêt à sortir de notre maison, rencontrer d'autres personnes. Mais donc la Bible nous dit que nous avons comme un miroir pour regarder ce que nous sommes. C'est dans Jacques 1. Il nous est dit, si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, lorsque nous approchons de la parole de Dieu, c'est un miroir pour nous. Il y a certaines choses qui nous sont dites et si tout de suite on s'en écarte et on oublie, alors ça ne sert à rien. Elle est là pour nous montrer, tiens, il y a des choses qui ne vont pas. Les choses qui ne vont pas, par exemple, c'est faire du bruit sans manifester l'amour. Mais nous croyons maintenant que si nous focalisons, nous disons « Oui, je suis là pour une raison bien précise. Ce que je vais faire, si je décide, je vais m'édifier aujourd'hui en parlant langue. Si je décide de le faire, je vais y mettre quoi ? Tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée. » C'est le principe de base de la parole de Dieu. Jésus avait posé cette question à un homme et dit « Quel est le plus grand de tous les commandements ?» Quel est le plus grand de tous les commandements ? Et il avait répondu ce que tout Israël normalement devait savoir. Moi j'ai même un titre à Deutéronome 6. Vous vous rendez compte ? Nous sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance et qu'est-ce que nous faisons ce matin ? On regarde dans le livre de la loi, dans Deutéronome 6, pour y trouver l'essence de ce que nous voulons vivre. Qu'est-ce qui est Deutéronome 6 ? J'ai même un petit titre qui s'appelle « Donner essentiel de la loi ». Donner l'essentiel de la loi est dans verset 4. « Écoute, Israël », on peut dire « Écoute, peuple de Dieu, toi le chrétien ». L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà la différence entre celui qui fait du bruit et celui qui est en train de s'édifier. Nous le savons que lorsque nous prions dans l'esprit, notre esprit est en prière, mais notre intelligence peut demeurer stérile. Mais vous remarquez bien que si nous sommes en prière, que notre esprit prie, mais que notre intelligence est en train de vadrouiller dans toutes sortes de différentes directions, de penser qu'est-ce que je vais manger à midi, qu'est-ce que je vais faire demain, etc., la prière dans l'esprit, elle perd de sa force, elle perd de sa puissance. Donc il y a un moment aussi où il nous faut mettre, on a dit, toute notre pensée, toute notre force, tout notre cœur dans ce que nous faisons. 1 Corinthiens 14, 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Cela devrait vous aider justement dans le parler en langue, si Dieu vous utilise au travers de ce don pour le parler en langue en public. Vous ne devez pas dire, mais personne ne comprend, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas votre problème, puisqu'il est dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Pourquoi voulez-vous tout le temps penser aux hommes? Vous devez alors penser à Dieu, penser ce que je suis en train de faire, ça a de la valeur. Je dis des mystères en esprit. Construisez votre foi sur ces paroles de Dieu. Je suis en train de dire des mystères en esprit. On dit, mais qu'est-ce que c'est un mystère? Justement, c'est mystérieux, c'est caché. Si on sait ce que c'est plus un mystère. Donc, par définition, on ne peut pas le définir, justement. On ne peut pas dire, c'est ça. C'est destiné à rester caché. Donc, il ne faut pas vouloir dire, je veux absolument percer le mystère de ce que je suis en train de prier. Puisque la Bible nous dit que c'est dans l'esprit qu'on dit des mystères. Ma responsabilité n'est pas de le savoir, c'est de croire ce que je suis en train de faire. Si je fais ces choses dans l'ordre dans lequel j'ai dit, ajuster, marcher dans l'amour, y mettre sa pensée, son cœur, sa force. 1 Corinthiens 14, 14, que j'ai déjà cité, mais je vous montre où c'est exactement. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Je ne suis pas en train de l'élaborer avec ma tête. Ça ne provient pas de moi. Vous savez, je suis persuadé qu'il y a des prières où peut-être il y a des fautes de grammaire. Peut-être elles ne sont pas très bien élaborées, mais elles sont agréables à Dieu. Et d'autres prières, vous arrivez dans une église, oh, quelle belle prière. Mais c'est des choses qui sont des redites qu'on a déjà entendu, qu'on a fabriqué en collant bout à bout des morceaux de Bible, et ça semble très joli, mais est-ce que Dieu les entend? Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des belles prières, mais l'important, ce n'est pas la façon dont je l'entends. L'important, c'est de d'où ça procède, d'où ça vient, qu'est-ce que ça produit. Donc, mon intelligence peut des fois demeurer stérile, parce que ça ne vient pas de ma tête, ça vient de mon cœur. Mon esprit est en prière. Numéro 3. Le parler en langue nous rappelle la présence de l'Esprit Saint en nous. Jean 14, 16, 17. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a des gens qui sont un peu confus de où est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est partout. Vous ne pouvez pas lui dire, il est là, je l'ai vu, ça y est. Quand ils ont vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, après on a eu ce symbole de la colombe partout. Et quelqu'un a eu cette expression un jour, il a dit, non, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Vous savez qu'il y a même eu un moment... Des gens qui étaient des charlatans dans l'esprit, faisaient semblant que des choses soient spirituelles. Par exemple, qu'il y ait de l'huile qui coule. Et puis, alors ils disaient tous baisser la tête. Et puis, pendant qu'ils faisaient leur prière, vite, ils cherchaient un peu d'huile sous le pupitre. Et tout à coup, il y avait de l'huile sur les mains. Et donc, un serviteur de Dieu que je connais qui était assis là, Il dit, est-ce que vous avez vu ça? Il dit, oui, j'ai vu. J'ai vu le truc, ce que vous avez fait. Et donc, comme un mauvais truc d'un mauvais magicien. Mais ce n'est pas ça, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et à un autre moment, il y en a un qui avait, il y avait des plumes sous l'estrade. Et donc, il jetait des plumes qui voltaient. Et puis alors, il disait, le Saint-Esprit est passé. Mais ici, nous sommes en train de rire ou de secouer la tête. Mais ça, des millions de gens sont bernés par ces stupidités spirituelles. Il faut avoir le courage de rejeter toutes ces choses et de chercher ce qui est vrai. Et la réalité, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, sur nous, partout autour de nous. Et que son nom, c'est le Saint-Esprit. Esprit Saint, sainteté, différent de nous. Et que quand on parle en langue, on dit, je ne suis pas en train de faire du bruit. Je sais que devant Dieu, je ne peux pas paraître spirituel si je ne le suis pas. Si je ne marche pas dans l'amour, eh bien, ça se voit aussi. Et donc, je suis conscient de sa présence en moi. Je suis conscient de sa présence en moi et ça doit m'amener à désirer lui plaire davantage, être attentif à la façon dont je mène ma vie. Donc, ça a de l'importance. Ça a un impact. Et aussi, lorsque je parle en langue, je ne vais pas faire fabriquer un message en langue dans l'assemblée pour épater tout le monde. Oh, vous avez entendu? Parce que je suis conscient de la présence du Saint-Esprit. Je ne me permettrai pas de trafiquer un faux don spirituel. Je ne sais pas si les gens se réalisent à quel point ils jouent avec le feu, dans le mauvais sens du terme, en fabriquant des faux dons spirituels, en paraissant des choses qu'ils ne sont pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quatrièmement, la prière en langue est en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu. Alors vous savez que lorsque vous priez dans l'esprit, vous n'allez pas prier des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Encore une fois, quand on est en train d'intercéder, si on ne met pas son cœur, sa pensée, sa force, l'impact sera réduit, mais dans sa nature, au moins une chose est sûre, c'est que quand vous priez dans l'esprit, vous ne priez pas des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous priez des choses contraires à la volonté de Dieu? Bien rien. Il ne se passe rien. Vous ne pouvez pas contraindre Dieu à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas. Hein? On a cette fausse idée, des fois, à force d'insister, je vais arriver à le faire plier. On ne peut pas gagner le bras de fer contre Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas le contraindre à faire quelque chose qu'il n'aurait pas voulu. Mais ce qui nous manque des fois, c'est de prier la volonté parfaite de Dieu. Pour notre propre vie, on peut avoir des désirs, des envies. Donc, si on va prier, on va prier, bien sûr, selon ce que je désire. Et même si quelqu'un met cette belle phrase, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'au fond de nous, on ne désire pas obtenir certaines choses par la prière? Donc, c'est normal, c'est naturel, mais nous voulons dépasser le naturel, parce que des fois, ce que nous demandons n'est pas le meilleur de Dieu pour nous, ou pour quelqu'un pour qui on prie. Notre fille, maintenant, est loin d'ici. Donc, notre désir naturel, c'est de dire, Seigneur, dirige-la, et surtout dirige-la pour qu'elle revienne près de nous. Comme ça, nous avons nouveau sac. Mais ce n'est pas forcément parce que ça nous ferait plaisir qu'elle soit tout près de nous que ce serait forcément la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Donc, nous devons apprendre à prier les choses qui sont justes, ce que Dieu a prévu pour elle. C'est un exemple concret, mais où nous pouvons nous y retrouver tous. Romains 8, 26, 27 nous dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il faut toujours être prêt. Non pas tout le temps à confesser nos faiblesses. Je suis faible, je suis nul, je ne suis pas grand chose, etc. C'est pas ça que nous disons. Mais confesser notre faiblesse dans le sens, je suis dépendant de Dieu. J'ai besoin de sa force. J'ai besoin qu'il m'aide et qu'il m'assiste. D'accord? Vous comprenez la nuance? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, dans le sens de ce que j'ai dit. Nous savons ce que nous désirons, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On a besoin de se soupirer de temps en temps. J'ai lu quelque part qu'un soupir, c'était comme de faire un reset pour notre corps. Vous savez ce que c'est? Reset, c'est ce terme anglais qui nous permet de réinitialiser un appareil électronique, ordinateur ou autre chose. On réinitialise. Voilà, je donne des explications. C'est pas évident, mais un soupir, c'est comme il y a quelque chose qui se relâche en nous, quelque chose qui on est peut-être tendu par quelque chose et que Dieu a prévu un moyen naturel, c'est simplement de soupirer. Donc allez-y, hein, soupirez de temps en temps. C'est un exercice respiratoire déjà tout simple. On n'a pas besoin de partir dans l'occulte avec toutes les techniques mélangées de religion orientale, de décontraction, mais simplement de dire il y a un moment on a besoin de soupirer. Et là l'esprit nous est dit il intercède par des soupirs. Un soupir c'est quelque chose qui est au plus profond de nous. Inexprimable, ça veut dire qu'on n'arrive pas bien à tout définir. Et la prière dans l'esprit, on ne peut pas l'exprimer. Bien sûr, on peut entendre des bruits, des syllabes, des sons, ça on peut l'exprimer. Mais on ne peut pas l'exprimer dans le sens de l'expliquer en détail. Comme lorsque l'apôtre Paul a dit « J'étais au ciel, je suis revenu, mais je ne peux même pas trouver des mots humains pour dire exactement ce que j'ai vu. » Tellement c'était... Voilà, alors on n'a plus de mots, hein, c'est ça l'idée. Il y a des choses tellement profondes en nous. La Bible nous dit, qui peut sonder les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et qui peut sonder les profondeurs de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est au fond de lui? Et nous, on est souvent en surface. Pour beaucoup de choses, on est constamment sur le dessus. On parle des fois aussi du vernis, hein, on essaie juste l'apparence, la surface. Tout dans notre société dans laquelle nous vivons actuellement, et à une tendance mondiale, tout est vers l'apparence, la surface, tout ce qui est visuel, l'image que je vais donner, toujours l'image. Mais Dieu nous apprend à aller dans des profondeurs, où il y a des choses qui se passent, des profondeurs selon Dieu. L'Esprit lui-même intercède. Donc il y a une intercession, il y a une prière, ça a de la valeur. Celui qui connaît, qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et quand Dieu prie pour quelqu'un au travers de vous, il ne va pas prier selon vos critères, justement, qui pourraient être entachés d'émotions, de sentimentalisme, de tous nos désirs, de toutes nos réflexions, de ce qui serait bon pour les autres, mais Dieu sait mieux. D'accord? Il sait mieux. Donc c'est une bonne chose, car si je prie en langue, 1 Corinthiens 14:14, on a vu, mon esprit est en prière. C'est une vraie prière, croyez-le, c'est pas juste du bruit, c'est pas juste pour me faire sentir bien. C'est une vraie prière. Numéro 5, le parler en langue stimule la foi. Pourquoi il stimule la foi? Parce que Jude 20 dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit sur la base de votre très sainte foi. Qu'est-ce que ça veut dire, votre très sainte foi? C'est-à-dire que cette capacité que vous avez de croire la parole de Dieu, un serviteur de Dieu a dit qu'il avait écrit dans sa Bible, en rouge, tout au début de la Bible dit, je le crois, un point, c'est tout. Donc, quelque part, nous voulons toujours baser notre foi sur ce que Dieu a dit. Hein, on ne peut pas la baser sur ce que nous voyons. Ou c'est ce que nous ressentons. Des fois, ça fait du bien de voir le résultat de nos prières. Des fois, ça fait du bien de sentir bien et d'avoir expérimenté quelque chose de Dieu. Mais avant tout, nous basons notre foi sur ce que Dieu a dit. Et sur cette foi, nous prions par le Saint-Esprit. Donc, rien que le fait de parler en langue stimule notre foi. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, vous, de prier quelque chose. Ou quelqu'un, un simple auditeur, ou quelqu'un du dehors viendra. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais ça sert à quelque chose? Tu n'es pas en train de devenir un peu fou? Donc toutes ces objections et réflexions nous obligent à dire non, je ne suis pas fou. Je suis simplement en train de croire ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit que c'est une chose qui est bonne pour moi. Et Dieu a dit que c'est une chose qui m'édifie. Et Dieu a dit que c'est quelque chose qui stimule ma foi. Donc, je le fais sur cette base et pas sur la base de réflexion et de je ne sais quoi. Numéro 6, le parler en langue nous donne la possibilité d'échapper à la corruption de ce monde. Jésus a dit qu'il y a des moments où nous devons aller dans notre chambre et fermer la porte. Pour être là, nous retrouver avec Dieu. On ne peut pas tout le temps être dans le monde influencé. Parce qu'on dit, on ne veut pas être influencé dans le monde, nous voulons nous-mêmes influencer le monde, dans le monde. Mais la réalité, c'est que on n'est pas toujours imperméable. Donc, il y a des choses qui viennent en nous. À force d'être bombardé de pensées et de réflexions, le peuple de Dieu a une tendance, comme n'importe quel être humain, à être influencé et écouter des choses qui lui sont dites. Donc, que se passe-t-il? On a besoin aussi d'être avec soi-même et Dieu. Même, je ne parle pas d'être avec soi-même et Dieu maintenant, seul dans votre chambre, dans vos activités. Savoir, des fois, fermer ses oreilles, fermer une influence, dire non, ça je ne l'accepte pas. Eh bien, des fois, c'est difficile parce que c'est tout le temps un bras de fer. Vous comprenez ce que je veux dire? Les pensées veulent venir, etc. Donc, vous pouvez lutter en disant non, 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 il ne faut pas que je pense ci, pas que je pense ça, il faut que je résiste, etc. Vous savez que toute la publicité est basée sur le fait que nous puissions céder à toutes les tentations qui existent. Donc, on utilise tous les aspects de l'âme humaine pour attiser les convoitises. Mais ici, dans la Bible, il y a un verset qui nous dit, dans 1 Corinthiens 14, 28, que s'il n'y a pas d'interprète pour ce don public du parler en langue, qu'on se taise dans l'église. Donc, on ne parle pas à haute voix, mais qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Donc, il nous montre là un endroit qui est en vous, où vous parlez à vous-même et à Dieu. Comment vous faites ça, parler à vous-même et à Dieu? Vous pouvez le murmurer discrètement. Ou en vous, vous priez pour maintenir cette stimulation spirituelle où vous sentez que vous êtes en communion avec Dieu. Tout ce que nous avons vu, je suis rempli du Saint-Esprit. Je manifeste ce baptême dans le Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu m'envahit. Je suis en train de m'édifier. Le Saint-Esprit est en moi. Je prie selon la volonté parfaite de Dieu. Je stimule ma foi par le parlant en langue. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui habitent votre esprit pendant que vous le faites. Alors, la corruption du monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pénètre beaucoup moins. Parce qu'il y a la vieille expression qui dit on ne peut plus rien mettre dans une coupe qui est pleine. Elle est déjà pleine. Mais quand il y a du vide, on dit des fois la nature a horreur du vide. Il y a quelque chose qui veut remplir. Donc, la meilleure façon de résister à la corruption du monde, c'est d'être rempli. On ne peut plus rien y mettre. C'est déjà rempli par Dieu. Mais si vous essayez de chasser ce qui veut venir alors que c'est vide à l'intérieur, le Seigneur Jésus a dit, si un démon est chassé et qu'il veut revenir, mais que la maison est vide, il revient et la situation est pire qu'avant. Donc il faut que la maison que nous sommes soit habitée. Une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Ça prend tout son sens quand on y pense. Ce n'est pas juste une belle expression, « Ah, je suis le temple du Saint-Esprit ». Non. La prière en langue numéro 7 nous permet de prier pour des choses inconnues. Donc, encore une fois, l'autre dimension de Romains 8, 26, d'abord, on avait vu le côté « prier en harmonie avec la volonté de Dieu ». Là, c'est plutôt se mettre à la disposition de Dieu pour prier des choses inconnues. Des fois, quand on veut intercéder, il y a besoin de beaucoup de prières. John Wesley a dit, il est persuadé que rien sur terre ne se fait sans que ça ait été prié d'abord. Vous imaginez? Rien ne se fait que ça n'a été prié d'abord. Donc il faut qu'il y ait des prières qui montent par Dieu pour que Dieu ait légalement le droit d'agir dans ce monde. Il avait donné la gestion de la planète Terre à l'homme, l'être humain, qui s'est laissé berner par le diable. Il lui a céder la domination de la planète Terre, c'est pourquoi nous voyons dans l'état dans lequel elle est. Et maintenant, Dieu veut reprendre le contrôle, on peut dire, de la planète Terre, mais au travers de l'Église que nous sommes, et pas en s'imposant, en disant « poussez-vous, je vais remettre de l'ordre ». Donc, il cherche à collaborer avec nous. et nous pouvons prier pour des choses inconnues. Donc je disais, quand il y a besoin d'intercession, des fois on dit, il y a un tel, des missionnaires, des gens, des situations, des projets, il faut prier tout ça, on fait des listes de prières, on cherche à élaborer quelles sont les choses. Je ne suis pas du tout contre tout ça, mais il y a des choses où il nous faut simplement se dire, moi je ne sais pas quel est le besoin le plus important de cette situation, mais je prie. Et donc, à un moment donné, j'ai peut-être prié tout ce que je sais prier en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Alors, des langues inconnues viennent nous aider pour des choses inconnues. Et une fois de plus, on y met notre foi. On croit que ça a réellement un impact. Numéro 8, la prière en langue nous rafraîchit spirituellement. Jérémie, chapitre numéro, on va regarder, 15, je crois. Non, c'est Jérémie 17, pardon. Jérémie 17, il nous est dit au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Nous ne sommes pas dans un monde où toutes les situations sont agréables, idéales, on est dans un monde en crise, etc. On peut le comparer à une année de sécheresse, un monde difficile, l'amour se refroidit, le péché augmente, etc. Donc quelle est la possibilité que la parole de Dieu nous donne? Elle nous donne un repos en Dieu. Et dans Ésaïe 28, 11, 12, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple et lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Donc il y avait une promesse d'un repos, le repos de Dieu. C'était le repos de sabbat. Il a travaillé 6 jours et ensuite le 7e, il s'est reposé de ses œuvres. Dieu a accompli toute l'œuvre du salut en Jésus et maintenant nous sommes dans le repos de la foi. Et pour nous, concrètement, de tous les jours, on fait travailler notre esprit, mais dans le repos que Dieu nous offre. C'est donc la prière en langue, c'est un rafraîchissement spirituel. On me dirait, mais attends, tu as lu Jérémie et Ésaïe, quel rapport avec les langues? C'est parce que ce passage de Ésaïe est repris tel quel par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, où il dit expressément que c'est une référence à la prière dans l'esprit et que c'est un repos. Donc nous le croyons et nous le recevons. Et nous disons, c'est une capacité pour dans l'année de la sécheresse, même si c'est sec spirituellement autour de nous, eh bien nous restons verts. On a nos racines qui vont près du courant d'eau. Et on n'est pas des chrétiens aigris, pleins de rancœur. « Oh, je ne reçois rien avec toi, tu ne m'encourages pas, tu ne m'édifies pas. » Eh bien, parce qu'on apprend nous-mêmes à être une source de bénédiction. Oui, peut-être l'autre n'a rien, justement. Il connaît des difficultés, il passe par une période difficile. Et moi, j'aimerais encore lui tirer un peu le peu d'énergie qui reste en lui. Eh bien, là, Dieu nous dit, ben, venez auprès de moi. Il y a un repos, et là, dans l'esprit, vous êtes en train de vous prémunir contre tout ce qui vient de l'extérieur, la chaleur, la sécheresse, et vous ne cessez de porter du fruit. Vous restez verdoyant au milieu d'une génération où tout le monde s'entre-déchire, mais vous avez cette bénédiction de Dieu en vous. Alors, à cause de tout cela, numéro 9, les langues sont là pour rendre grâce. On peut rendre grâce à Dieu. Combien d'expressions dans la Bible des « rendez grâce », « soyez reconnaissants », « on monte à Jérusalem en rendant grâce par les louanges », « on monte à Jérusalem », « on descend jamais à Jérusalem ». Jérusalem est située dans des montagnes. Et nous aussi, spirituellement, on monte vers Dieu. On ne descend pas vers Dieu. On n'est pas en haut et lui en bas. Donc, on va là où il est. Il est en haut. Et donc, on monte en apportant cette reconnaissance. Et on voit toute cette symbolique biblique. La fumée des parfums qui montent, les prières des saints, la vision céleste de Jean, l'apôtre Jean, qui voyait ses parfums et ses prières. Alors, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. C'est-à-dire s'il n'y a pas cet élément supplémentaire que nous verrons dans nos prochains messages, l'interprétation, ça ne sert à rien en public. Mais ça sert parce que ce sont des excellentes actions de grâce. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de dire finalement ça ne sert à rien tout ça. Non, c'est dans un certain contexte, il est dit, l'autre n'est pas édifié. Mais dans la réalité de ce que nous pratiquons, eh bien, c'est très utile. Et c'est même quelque chose qui rend d'excellentes actions de grâce. Et le dernier point, c'est que le parler en langue dompte notre langue. Et Jacques 3,8 nous disait que la langue, aucun homme, aucune femme ne peut la dompter. L'apôtre Paul était dans ce combat intérieur, en disant, quand je fais le mal, je voudrais pas le faire, et il y a une lutte, et j'arrive pas, et des fois ça nous est arrivé. On voulait faire des efforts pour être aimable, et puis il y a une chose qui est sortie de notre bouche, et ça a jeté un froid, ou ça a été mal reçu, ou c'était une parole dure, ou désagréable. Après, comme on dit, on s'en mord la langue, mais c'est trop tard. Donc ici, Jacques explique dans tout le chapitre 3 quel problème on a pour dompter cette langue. Et il dit, il ne faut pas que de la même source sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Comment faire pour que ça change? On ne peut pas le changer soi-même. Mais grâce soit rendue à Dieu, comme dit l'apôtre Paul, que en Jésus, nous avons cette capacité, parce qu'il nous a donné cette possibilité de nous édifier nous-mêmes, et que si on livre pas seulement notre cœur, mais aussi notre pensée, notre force, eh bien on permet à Dieu de prier au travers de notre langue, et là, de la même façon qu'une coupe pleine, on ne peut plus rien y mettre, si vous êtes en train de dire du bien, vous ne pouvez pas dire du mal en même temps. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, si vous priez, Seigneur, bénis-le, fais ceci, cela, que vous souhaitez de tout votre cœur les bonnes choses et que vous êtes en train de prier en même temps, vous ne pouvez pas le maudire. Donc, si vous êtes en train de prier dans l'esprit, ben, pendant ce temps, vous savez qu'il n'y a pas, peut pas y avoir en même temps des blasphèmes, des jurons, des je ne sais quoi. Je dis maintenant le pire, mais ce n'est pas possible. Donc, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne de ses capacités. Et à cause de ça, le don de parler en langue est un signe de Dieu, de sa présence, de la présence du Saint-Esprit. Et il attire notre attention. Et on verra pour la suite, pour le message sur l'interprétation, ce que ça produit dans l'Église. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.